Alors tout d'abord, merci d'être là, d'être aussi bien fidèle que nouveau. Donc je rappelle pour ceux qui n'étaient pas les fois précédentes, le principe général du cours. Donc c'est une étude très basique dans son projet, et c'est assez trompeur, de tout simplement prendre le texte de la Genèse verset par verset, mot par mot, et de se laisser guider par essentiellement les trois grands piliers du commentaire classique que sont Rashi, Ibn Ezra et Ramban, avec quand c'est possible des regards à Maïmonide aussi. Donc c'est pour ça que vous avez ce tas de feuilles là. Les deux premières, donc c'est le texte biblique avec Rashi et les sources de Rashi. Les trois premières. Ensuite, c'est Maïmonide en version bilingue arabe-hébreu comme il se doit. Ensuite, vous avez Ibn Ezra. Et ensuite, vous avez Ramban. Et donc, on en est au verset 6. On va essayer de faire cette unité-là qui fonctionne comme une unité, les versets 6, 7, 8, qui correspondent donc au deuxième jour de la Genèse. Donc on va essayer déjà de déblayer, de voir les mots et les structures qui nous sont problématiques. Donc, Vayomer Elohim, Yehi Raki'a, Betoch Hamayim, Vahim Mavdil, Ben Mayim Lamayim. Vaya'as Elohim et Araki'a, Vayavdel, Ben Hamayim Asher Mitachat Larakia, ou Ben Hamayim Asher Me'al Larakia, Vayichem. Vayikra Elohim, Arakia Shamaim, Vayare, Vayiboker, Yom Shini. Et Dieu dit qu'il y ait un rakia. Alors rakia, on traduit toujours généralement par firmament. Firmament, c'est typiquement le genre de mot très joli et dont on ne sait pas ce que ça veut dire plus en français qu'en hébreu. Et la racine de rakia, comme ça va être évoqué, raka, c'est le fait d'étendre quelque chose, comme on étend une nappe ou une toile, des choses comme ça. Quand reka en hébreu moderne, ou même classique, c'est par exemple une toile de fond. D'accord ? Donc, à l'intérieur des eaux, et que donc ce rakia divise, marque une séparation entre les eaux et les eaux. Ou, si on traduisait très littéralement, entre des eaux et les eaux. Et vous allez voir, vous voyez, c'est pas Ben Hamayim la Mayim, c'est Ben Mayim la Mayim. Et c'est pas Ben Mayim les Mayim non plus. Et vous allez voir, c'est pas innocent. Et Dieu fit, Ya'as, c'est faire, c'est fabriquer, d'accord, de manière très concrète, ce rakia, c'était étendu, et il sépara entre les eaux qui sont sous le rakia et les eaux qui sont au-dessus du rakia. Et ce fut ainsi. Et Dieu appela le rakia ciel. Et il y a eu un soir, et il y a eu un matin, deuxième jour. Alors je vous avoue, moi j'ai souvent eu des problèmes avec ce jour-là, ce verset-là, parce que j'ai jamais compris trop l'intérêt de cette histoire-là. Puisque finalement, donc on a passé... 3 mois à peu près sur le premier jour. Il y a beaucoup de choses à dire sur la lumière et tout ça. Et ensuite, le troisième jour, on va avoir les plantes, le quatrième, les astres, le cinquième, les volatiles, et le sixième, les animaux et l'homme. Et ce deuxième jour-là, finalement, bon, on ne sait pas ce que c'est là qu'il y a déjà. On sent que vaguement que c'est que comment dire, on voit pas trop la différence avec le Shamaïm dont on nous a parlé au premier verset, et de l'autre côté, si on traduit par firmament, c'est-à-dire l'endroit où l'étendue où sont dans la cosmologie classique fixés les astres. Bon, pour le coup, ça relève du quatrième jour, donc on ne comprend pas très bien à quoi sert ce deuxième jour. Alors, à part, effectivement, avec cette notion de séparation, qui va jouer un grand rôle, et avec cette mention très obscure, et c'est sans doute pour ça qu'il y a un désintérêt premier pour ce verset-là, qui est que non seulement on ne voit pas ce que c'est que ce l'archia, mais les eaux d'en haut, on ne voit pas ce que c'est. Donc il va falloir qu'on se débrouille avec ça.
Et on voit bien que Dieu, il a beaucoup de mal à nommer les animaux. Et il demande à Adam de nommer les animaux. Alors là, c'est étrange qu'il arrive à nommer quelque chose par rapport à Dieu, je ne sais pas trop.
C'est pas qu'il a du mal à les nommer, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y aura un être humain, la tâche de nommer les choses lui sera confiée.
Les animaux,
les choses. Les animaux, tous les commentateurs, c'est vrai que je n'ai pas insisté dessus, mais je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Ibn Ezra qui dit ça avant sur la lumière appelée jour et l'obscurité appelée nuit. Il disait normalement c'est l'homme qui nomme les choses, comme là il n'y a pas d'homme, c'est Dieu qui le prend en charge, quoi. Mais si on veut aller plus profond, il y a Ramban qui donne une indication sur ce que ça veut dire. Attendez, je vais vous reprendre ça. Il dit ça très clairement. Je sais plus où c'est, mais il dit en gros que justement le nommer la chose, c'est lui donner sa définition. Et donc ça fait partie de l'acte créateur que de donner une définition stricte à la chose. Ça, alors, on va pas faire, enfin, si on va faire Rashi, comme d'habitude, on va faire Rashi d'abord, parce que Rashi, on dit toujours, c'est le plus facile, et en réalité, c'est sans doute le plus riche, mais aussi le plus difficile. Donc on va déjà essayer de glaner les petites indications qui recèlent sans forcément comprendre tout ce qu'il veut nous dire. Et ensuite on reviendra sur ce qu'il nous dit. Donc Rachid dit Yehi Rakia, qu'il y ait un Rakia. Il dit Yehazek Rakia. D'accord ? C'est pas que le Rakia est nouvelle création ex nihilo. C'est seulement qu'il se renforce, qu'il durcisse en quelque sorte. Sharfalpi shenivru shamayim beyom rishon, adayin lachim hayu vekarshu b'sheni migaarat hakadosh baruch hu beomro yehi rakia. Voilà, c'est un peu bizarre d'ailleurs. C'est un peu bizarre en fonction de ce qu'on sait, ce qu'il a dit. Même si les cieux ont été créés le premier jour, ils étaient encore liquides. Et c'est le deuxième jour qu'ils se sont congelés au son du grondement divin. Grondement qui est justement cette parole, Yehi Rakia. D'accord ? Vezehu shekatuv, amude shamayim yerofefu. Kol yom rishon, besheni, yitmahu migaharato. Dans le livre de Job, il y a un verset poétique qui dit les piliers du ciel se sont fragilisés. Comment traduire ? Ils sont restés interdits, on va dire. Ils ont été pétrifiés. Vous voyez, Tama, c'est le cas, étonné. Donc, ils ont été pétrifiés de peur, on aurait tendance à traduire, devant son grondement. Et Rashi lit ça en deux phases. Il y a le premier jour où les piliers du ciel sont faibles, et le deuxième jour, face au cri divin, ils sont saisis d'effroi et donc ils sont comme pétrifiés de peur. Que Adam chez Mishtomem Vermen Migardat Hamayem Arlav, comme un homme qui, face à un rugissement qui l'effraie, devient muet d'étonnement et ne peut plus bouger. Alors, on est bien d'accord que moi j'ai rien compris à ce que ça nous raconte de faire. Mais déjà, il y a quelque chose qui est étonnant dans ce rachis par rapport à ce qu'on a pu établir précédemment, c'est que Rachim, lui, normalement, tient que le premier verset qui dit « Bereshit bara Elohim et Hashamim va'ata'alat », ça ne parlait pas de la création du ciel et de la terre le premier jour, mais que c'était un verset introductif à l'ensemble du chapitre qui disait « Au principe de la création du ciel et de la terre qu'on va raconter à la suite des six jours, alors, etc. » Donc là, il a l'air de tenir une option inverse qui serait que ce Rakia qui va être appelé Shamaïm est identique au Shamaïm dont on nous parle au premier verset, et que le premier verset énonçait que ce Shamaïm avait été déjà créé le premier jour, et que donc ce deuxième jour est juste une altération de la forme de ces cieux, mais sans que ce soit une création nouvelle, d'accord ? C'est clair ? Ça, c'est le premier point qu'il faut tenir chez Rachid. Et on va voir que c'est une préoccupation qui est présente chez les autres commentateurs aussi. Alors. Ensuite, il continue. « Betoch hamayim » à l'intérieur des eaux. Il lui explique que ça veut dire « Be'em tsa hamayim » au milieu des eaux. D'accord ? Comme le milieu d'un segment, d'accord ? Il y a à équidistance des deux extrémités. Sheyesh hefesh ben ma'im ayonim la rakia, kemo ben arakia la ma'im shi'ala aretz. Voilà. Ha la mata shem truyim be ma'amaro shel melech. Encore une fois, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il vient nous dire, si on nous dit que le rakia il est dans, à l'intérieur des eaux, ça ne veut pas dire qu'il est noyé dans l'eau, d'accord, mais qu'il est à équidistance des eaux. C'est-à-dire qu'il y a une distinction, un écart entre les eaux d'en haut et le rakia, de la même manière qu'il y a un écart entre le rakia et les eaux d'en bas. D'accord. Donc il y a des vides entre les eaux, le rakia et les eaux. Et donc, ça vient nous dire que les eaux d'en haut ne sont pas supportées par le rakia, mais qu'elles tiennent dans le vide par la parole divine. Okay, donc, parce que si c'est à la fois très basique et très incompréhensible ce qu'il veut nous dire. C'est-à-dire, si on est pour l'instant dans un modèle physique qui parle de notre réalité concrète, ok, et que on comprend de manière très immédiate que le rakia dont on nous parle, qui est appelé ciel, ça veut dire que ça correspond à ce qui est pour nous le ciel visible, d'accord, la voûte céleste, pour le dire rapidement. Or, si la voûte céleste doit séparer entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on voit bien que les eaux d'en bas ne sont pas collées à la voûte céleste. Okay, il y a un espace entre les deux. Et donc, dit-il, si le rakia marque la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il faut qu'il y ait une symétrie. Et donc, de la même manière, les eaux d'en haut, dont on ne sait pas encore ce que c'est, ne sont pas posées sur la voûte céleste, mais il y a aussi un espace entre les deux.
Et il y a la Terre, déjà, à ce moment-là ?
Alors, il y a la Terre qui, normalement, pour l'instant, est sous l'eau. Normalement, elle est sous l'eau, puisque ça va être le deuxième jour où, justement, il va y avoir les eaux qui vont se rassembler et que la terre ferme va apparaître de sous l'eau.
Le deuxième jour.
Le troisième.
Le troisième.
Ouais, j'ai un peu vendu la mèche. Parce que vous allez voir qu'Ibn Ezra dit que c'est le deuxième jour aussi. Mais effectivement, bon, dans la narration du troisième jour.
Mais là, dans le deuxième jour, c'est déjà Haaretz, du coup, quand on dit la Terre.
C'est ça ma question. Rachid
dit ça, en fait. Là, dans ce qu'on vient de lire, il y a écrit que Cheyesh et Fretz, qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut,
ouais,
et la Rakia, comme entre le Rakia, des eaux qui sont sur Haaretz.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la Terre, et il y a la Terre qui est recouverte d'eau, et ensuite, il y a l'air, et il y a le Rakia, et ensuite, il y a encore un autre espace. Et ensuite, il y a des eaux. C'est là, c'est qui? C'est pas Arnaud? Arnaud? C'est pas Arnaud? Et de fait, effectivement, si on poursuit ce modèle-là, il n'est pas... on ne sait pas ce que c'est ces eaux qu'il y a en haut. D'accord. Et c'est effectivement, on construit un modèle comme ça, et que donc, on n'a pas un modèle où il y aurait effectivement la Terre, l'eau, enfin la Terre ferme, quoi, et puis l'eau qui serait posée sur la Terre ferme, et puis le Rakia, et de l'eau qui serait posée sur le Rakia. Et donc, on aurait une symétrie comme ça. Cette symétrie, elle n'est pas comme ça. On a la Terre, on a l'eau, on a un vide, on a le Rakia, on a un vide, on a l'eau, et donc il est... pas interdit qu'on puisse imaginer qu'il y a quelque chose qui correspond aussi sur, par une symétrie axiale à quelque chose qui équivaut à la Terre mais en haut, quoi. Je sais pas. Ouais. Parce que la question, c'est qu'on sait pas ce que c'est que ces eaux d'en haut, et tous les commentateurs vont se débattre, et vous allez voir, c'est assez fou que chez Maïmonide notamment, on a quelque chose qui est pas clair du tout, volontairement pas clair, lui-même le dit. Et tous ces commentateurs, à mon avis, noient complètement le poisson en donnant une lecture météorologique qui ne colle pas du tout avec ce qu'il dit, à mon avis. Bref, vous allez voir. Bon, déjà, on finit sur Rashi, qui va de bizarrerie en bizarrerie. Donc, « Vaya'as Elohim et Arakia, tikeno al omdo vehi asiyato » Donc, quand le verset suivant dit « Dieu fit le Rakia », ça ne veut pas dire qu'il l'a fabriqué, ça veut dire qu'il l'a... comment dire ? Qu'il l'a configuré dans la façon dont il doit persévérer dans l'être, on va dire, d'accord ? Et c'est ça, hein, qui consiste en son asya, en sa fabrication. De la même manière qu'il est dit dans Parashat Kitetsé, d'accord ? À propos de Isha Yefet Tohar, c'est-à-dire la femme, la belle captive, comme on dit. Où on nous dit qu'une fois qu'elle a été prise en captivité, on n'a pas le droit de la prendre tout de suite comme épouse. Il faut d'abord qu'elle prenne le deuil de sa famille, etc. Et notamment qu'elle se laisse pousser les ongles, les cheveux. Je crois que c'est ça qu'on appelle. Je vérifie pour ne pas dire des bêtises. Parce que c'est typiquement les choses qu'on croit connaître par cœur. Où on se trompe. 21... Oui, c'est ça. C'est ça veut bien dire là-bas, ve'asita et tsipornea, qu'elle se laisse pousser les ongles. Donc on est bien d'accord.
C'est très bizarre, parce que je me suis souvent posé cette question. C'est quoi ce asita? Le asa, il ne vient pas de toutes les sources. Asa et korbanot, par exemple. On dit beaucoup, il a fait les korbanot.
Ouais.
C'est très bizarre pour un peu un terme comme ça.
Alors là, Rashi, ce qu'il veut dire, c'est que justement, tu vois bien que on te dit qu'elle doit justement ne pas s'apprêter. Et donc, ve'arsita de sepornea, ça ne veut pas dire elle va se faire les ongles. D'accord ? Au sens de elle va se faire une manucure, ou elle va se couper les ongles, etc. Ve'arsita de sepornea, ça veut dire au contraire, elle se laisse pousser les ongles. Donc, c'est une arsia qui est de l'ordre du non-agir. Et c'est ce que Rashi vient dire ici. C'est-à-dire que vaya, c'est arakia. Ça ne veut pas dire qu'après la parole créatrice, il a encore fait quelque chose positivement. Mais c'est qu'au contraire, il l'a installé dans un état, de perpétuité. Quoi. Mais par une forme de non-agir. Mais c'est, encore une fois, Rashi, c'est rarement clair. C'est d'autant moins clair qu'on croit que c'est facile.
D'ailleurs, l'étymologie, tu vas te faire barassa, c'est très très peu clair. Il n'y a pas, par exemple, un terme arabe qui correspond. Parce que dans ce sens-là, il y a d'autres sens même en hébreu. Aïsoui, c'est le massage, par exemple.
Ouais.
C'est deux racines différentes. En fait, c'est pas du tout. Ce terme est adossé très.
Parce qu'en araméen, c'est avad.
Avad.
C'est alors, de vrai.
Par exemple, t'as paral, qui existe avec mon poème.
Paral, ouais.
Aussi. Mais c'est à ça, on a beaucoup de mal à voir comment ils
se sont. Oui, c'est vrai que dans les autres langues, on a un vocabulaire qui renvoie à la notion de l'agir, du travail, etc. Mais on n'a pas d'équivalent de cette racine-là dans les autres langues pour comprendre un peu dans quel champ sémantique elle s'inscrit. Alors, on finit Rashi. Mais al arakia, al arakia lo neemar, et là, mais al. Donc, là, ça va dans le même sens que ce qu'il disait tout à l'heure, il n'est pas dit que les eaux sont sur le rakia, mais qu'elles sont au-dessus. D'accord ? Les fiches hen talouyin ba'avir, parce que, comme on l'a vu, elles sont suspendues en l'air. Mipne malo ne'emar kitov ba'sheni. Alors là, c'est ça un autre problème chez Rashi. Pourquoi est-ce qu'on passe à ça ? Pourquoi est-ce que là, il commente sur ce qu'il n'y a pas dans le verset ? D'accord ? Et pourquoi on ne nous dit pas dans ce verset que Dieu a vu que c'était bon. Les fiches l'onigmera mal'echet amayim adiom shishi. Parce que justement, tout ce qui concerne ce travail des eaux ne va se finir que le troisième jour. Ve'areit hilba basheni. Or, ça a commencé le deuxième jour. Ve'davar shelonigmar eno bimluo ve'tuvo. Or, quelque chose qui n'a pas atteint son état d'achèvement, n'a pas atteint sa complétude, sa plénitude même, littéralement, et donc ne peut pas être qualifié de bon. Alors que le troisième jour, où d'une part, va y avoir l'achèvement de l'œuvre des eaux, puisqu'il va y avoir la formation des mers et la terre ferme qui va apparaître. Et que par ailleurs, va aussi y avoir une autre chose qui va être la création des plantes. Alors là-bas, on va dire deux fois Kitov. Bon, d'ailleurs, dès le verset 10, quoi. Donc, une fois pour l'achèvement de ce qui relève en réalité du deuxième jour, et une fois pour l'achèvement de ce qui relève proprement du troisième jour. Et ensuite, dernière remarque de Rashi. Vayikra Elohim la rakia shamayim. Donc, Dieu a appelé ce rakia shamayim. Ça veut dire quoi ? Shamayim. Rashi reprend, comme toujours, un commentaire midrashique très connu. Je n'ai pas mis la source ici. Ouais, ça doit être en face, c'est pas grave. Il y a trois façons de comprendre Shamayim qui est compris comme un mot composé. D'accord. Soit Samayim, il a élevé les eaux. Soit Shamayim, là-bas, il y a des eaux. Soit Eshumayim, du feu et de l'eau. Il est vanzé basé vers Samhem Shamayim, parce qu'il a mélangé le feu et l'eau, il en a fait le ciel. Ok ? Okay. On est bien d'accord que qu'on ne comprend pas grand-chose.
Okay. Vous pouvez juste répéter la traduction
de la fin.
De celui-là de Vayikra et de Kim Larakia Shamaïm. Voilà.
Il dit Shamaïm, c'est soit Samaïm, il a porté les eaux. D'accord ? Du fait que, donc justement, comme il, que, c'est la suite de son commentaire, que ça a été, qu'en réalité, les eaux qui sont au-dessus du Rakia sont portées par la parole divine. Soit Shamaïm, que là-bas aussi il y a des eaux. Soit Eshumayim, parce que là-bas il y a du feu et de l'eau qui sont mélangés. Mais donc c'est très particulier, parce que en réalité, si selon ces trois étymologies, Shamaïm se rapporte en propre, non pas à Rakia, mais aux eaux qui sont au-dessus de Rakia. D'accord ? Parce qu'aucune de ces, toutes ces étymologies viennent nous parler des eaux qui sont au-dessus du Rakia. D'accord ? Et ça ne rapporte pas au Rakia en tant que tel. Donc le Rakia. Ce nom de Shamaïm pour Rakia, ça a l'air d'être un nom d'emprunt. D'accord. Et d'ailleurs, on avait vu ça comme principe directeur extrêmement précieux chez Maïmonide. Il nous dit, à chaque fois que tu as un verset qui te dit que Dieu donne tel nom à telle chose, et que ce même nom, dans un verset précédent, il a déjà été utilisé, ça veut forcément dire que dans les versets précédents, ça désignait autre chose. D'accord ? Là, de fait, comme Maïmonide va le dire, si on nous dit au verset 8 que Dieu appelle Rakia Shamaïm, et qu'on nous a déjà parlé de Shamaïm au verset 1, ça veut dire que dans les versets 1 à 7, il n'y a pas de Rakia, or il y a déjà Shamaïm, donc Shamaïm, ça veut dire autre chose. Arrête sans doute aussi, ouais, bien sûr.
Mais tout à l'heure, on a l'hypothèse que le premier pasouk de être chamaïm et d'arrêt, c'était finalement une annonciation. Ouais, il a créé les cieux et la terre, voilà comment ça s'est fait. Du coup, ça ne marcherait pas de dire ça.
Voilà, alors soit effectivement, on est obligé d'avoir ce genre d'artifice narratif. Mais on va voir chez Maïmonide comment il s'en sort. Mais de fait, là, on voit bien que même avec cette nomination de Rakia comme Shamaïm, on voit bien que en fait, ce n'est pas le Rakia qui s'appelle Shamaïm, c'est les Shamaïm, c'est les eaux qu'il y a au-dessus du Rakia. D'accord ? Donc c'est un peu étrange. Donc je vous fais en hébreu directement quand même. Umima she atat salir la da'at. C'est la page suivante dans le Rambam. D'accord, les deux colonnes, la colonne de droite c'est en hébreu, la colonne de gauche c'est en arabe. Donc ce qu'il faut maintenant, tout ce chapitre 30 c'est une lecture de ces premiers versets de la Genèse. Que tu dois savoir qui Omro va Yavdel ben Amayim, etc. Quand le texte dit qu'il a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, Ena Havdala ben Makom Shena Seze le Marala Veze le Mata Vetivam Ahid. C'est pas cette la séparation qui est induite par ce Rakia n'est pas une séparation spatiale, une distinction spatiale. Au sens où la séparation consisterait à ce qu'il y ait maintenant des eaux qui sont en haut et des eaux qui sont en bas. Mais qu'à part ça, elles seraient de même nature. Et la pirusho, mais il faut, voilà l'explication. Sheu hivdil benehem havdala hativit. C'est une séparation, une distinction de nature. Klomar betsura, c'est-à-dire de forme. Alors, c'est-à-dire que c'est la même matière, mais que. D'ailleurs, on va avoir une difficulté avec ça. C'est que donc, il y avait au premier jour quelque chose qui s'appelait de l'eau et qui n'avait pas forcément de forme, ou en tout cas pas la forme qu'on connaît aujourd'hui. et que l'Avdala consiste en ce qu'on a donné aux eaux deux formes différentes. Versa mixat oto asher kar uthila mayim davar aher betzurat ivit chez les bichots. D'accord. C'est à partir d'une partie de ce qu'on avait appelé au début eau, dans le deuxième verset, il en a fait une autre chose en lui faisant revêtir une certaine forme naturelle. Versa mixato betzurat aheret vehem amayim halelu. Et l'autre, une autre partie, il lui a donné une autre forme. Et ce sont les eaux que nous, on connaît. Okay. C'est pourquoi, non seulement les eaux d'en haut, qui vont adopter une nouvelle forme, vont s'appeler Shamayim, d'accord ? Mais les eaux d'en bas aussi vont recevoir un autre nom qui vont s'appeler Yamim, c'est-à-dire les mers. Hine amar lecha bepirush ki oto ha-mayim ha-rishon ha-amur bo al-pene ha-mayim eno ze asher ba-yamim. Donc si on va voir dans les versets suivants que les eaux d'en bas vont recevoir un nouveau nom, donc vont recevoir une nouvelle définition, donc une nouvelle forme, ça veut bien dire que les eaux qu'il y avait avant ça, dont on nous disait qu'elles couvraient la surface de l'abîme et que le souffle divin planait par-dessus, etc., ne sont pas celles que nous, on connaît aujourd'hui, l'eau de la mer. Et la mixato nivda betzula mesuyemet me'al ha'avir. Mais en réalité, il y en a donc une partie qui a été distingué en recevant une forme spécifique qui se trouve au-dessus de l'air, au mitsato ou à mayim aele. Et il y en a une autre partie qui est l'eau de la mer. Veillez omro vayabdel ben amayim achal mitahat arakia, kemoro vayadel ohim ben or ben achosher. D'accord ? Et donc, quand le texte dit qu'il a distingué entre les eaux qui sont au-dessus, en dessous du rakia et celles qui sont au-dessus, c'est une distinction de forme spécifique, de la même manière que quand on a séparé la lumière de la ténèbre, c'était pour Maïmonide le fait que la lumière et la ténèbre ont des formes spécifiques différentes. C'est pas c'est pas une distinction spatiale entre la lumière et les ténèbres, c'est vraiment deux choses différentes, de nature différente. Ve'arakia atzmo mina mayim. Alors la question, maintenant il revient à la question qu'on avait, c'est finalement pourquoi est-ce que d'où vient ce rakia et pourquoi est-ce qu'il s'appelle shamayim alors que shamayim normalement ça devrait renvoyer aux eaux et pas au rakia. Il dit comme ça, rakia atzmo, le rakia lui-même mina mayim nithave. Il est venu à l'existence à partir de l'eau aussi. Chez Amru, Hugleda tipa ahemtsait. Comme il est dit dans Bereshit Rabba, que le rakia d'où il sort, parce que c'est la grande question qu'on a ici, d'accord ? On nous dit, voilà, il y a des eaux d'eau, il y a des eaux d'eau bas, il y a un rakia qui vient diviser, mais finalement, à aucun moment on nous spécifie d'où sort ce rakia, quelle est sa nature, etc. De fait, la solution qui ressort des versets, avec ce fait que le rakia est aussi appelé Shamayim, c'est que lui aussi relève de l'eau. Et c'est ce que disait Rashi au début. D'accord ? Ce que Rashi venait dire en disant que, je vous rappelle, que le rakia, c'est quand on y est rakia, c'est que le rakia c'est solidifié. Et qu'il est identique au Shamayim, parce qu'à la base c'était de l'eau, et que la parole divine a fait qu'il s'est figé. D'accord. Et donc ça rejoint ce qui est dit dans Midrash Rabba, hein, qui dit que le rakia vient de la cristallisation de la goutte centrale. Joli quand même, ça. C'est-à-dire qu'il y a donc des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, et il y a au milieu de l'eau aussi, qu'on peut même distinguer comme une seule goutte, qui, elle, va se durcir et se cristalliser. Et ken amru vayikra Elohim la rakiya shamayim, kemo shbi'arti lecha leber shituf Hashem. Et de la même manière, quand le verset dit que Dieu nomme le Rakia Shamayim, comme je te l'ai expliqué en termes de logique des littéralement du partage des noms, c'est-à-dire de l'homonymie, et chez En Shamayim Amur Tchila be Omro et Hashamim et Haaretz, hi zo asher nikra Shamayim. Et donc, ça veut bien dire que ce qu'on appelle maintenant Shamayim n'est pas identique avec ce qu'on avait appelé dans le premier verset Shamayim. Mais Chizek Anyanze Beomro Alpene Rakia Shamayim, comme il va être dit un peu plus loin, où on va parler du Rakia des Shamayim. D'accord ? Et que donc, si Shamayim peut venir qualifier Rakia, spécifier Rakia, ça veut dire que Rakia et Shamayim, en réalité, c'est différent. Les Rakia, Rakia, Zulat à Shamayim, parce que Rakia, c'est différent de Shamayim en réalité. Et que donc, ce que vient nous dire Rambam ici, implicitement, c'est que même si le verset nous dit qu'on a appelé le Rakia Shamayim, c'est toujours un nom d'emprunt. Et que Shamayim, ça renvoie à une autre réalité, et que Rakia est appelé métaphoriquement Shamayim. Ou Mechamat Shituf Ze Shebeshemot Paramim Koregam la Shamayim Amitim Rakia. Et ce rapport d'homonymie peut parfois se renverser, que parfois, quand on veut parler des vrais Shamayim, les versets vont utiliser le terme de Rakia. Kemo shekara Rakia amiti Shamayim. De la même manière que parfois ce qui est en réalité Rakia est appelé métaphoriquement Shamayim, parfois ce qui est vraiment Shamayim est appelé métaphoriquement Rakia. Vehu omro vayiten otam Elohim birkia Shamayim. C'est ça quand le que le verset dit plus loin, hein, que Dieu a placé donc les astres dans le Rakia des Shamayim. Okay. Et donc, vous voyez bien qu'il n'est pas très explicite ici, mais ça veut bien dire pour lui, si on lit attentivement, que en réalité les astres ne sont pas placés dans le Rakia, ils sont placés dans les Shamayim, mais que on désigne métaphoriquement ces Shamayim aussi par Rakia. Venit barer od belashon ze ma shekvar ukhach shekol hakochavim mehashemesh vayirach tokaim begalgal ki en halal ba'olam. Et donc ce verset qui dit vayiten otam elokim berkia Shamayim va dans le sens de ce qui a été déjà démontré dans la première partie du Moré Nevouchim, dans les chapitres cosmologiques, que toutes les étoiles et le soleil et la lune sont fixées dans une sphère. Parce qu'il n'y a pas de vide dans le monde. Alors je finis de traduire et puis ensuite je vous expliquerai. « Ve'enan al-shtach ha-galgal kefi shemedame ha-hamon » Et ils ne sont pas posé à la surface interne de la sphère, comme les gens s'imaginent. Les fiches amar birkia shamayim, velo amar al rekia shamayim. Ce qui est dit dans le firmament céleste et non pas sur le firmament céleste. Henet va'er ki homer mesuyam haya meshuta vikar umayim. Là, il arrive au sujet. Avant ça, je résume. D'accord, là, on est pour l'instant dans le modèle cosmologique classique ptolémaïque. Que reprend Rambam dans sa lecture ici, qui est que il n'y a pas de vide dans la nature. Et que donc, ce qui nous a l'air de flotter dans le ciel, comme les astres, de flotter dans le vide, ne flotte pas dans le vide, mais est fixé sur des sphères qui sont solides, et que, contrairement au dessin qu'on fait généralement, c'est pas une sphère comme ça, et puis ensuite un vide, et une autre sphère, et ensuite un vide et une autre sphère. Hein. C'est une illusion des dessins qu'on fait sur les manuscrits ou dans l'impression. D'accord, on est obligé de dessiner des cercles concentriques, et donc de laisser du blanc entre les cercles concentriques. Donc on s'imagine que les sphères de ce modèle ptolémaïque sont séparées par du vide. Mais lui dit non, pas du tout. Pourquoi est-ce que les astres sont fixés sur des sphères ? Parce qu'ils ne peuvent pas planer dans le vide. Et donc, parce qu'il n'y a pas de vide. Et donc, s'il n'y a pas de vide, il n'y a pas non plus d'espace interstitiel entre les sphères. D'accord ? Donc, il faut bien que ces sphères, c'est comme c'est comme des poupées russes qui sont collées les unes aux autres. Okay, et donc, ça tourne comme ça. Okay, c'est pas comme ça. Ça tourne comme ça. Alors, ça pose un énorme problème. C'est ce que Maïmonide, dans la première partie, je crois, déjà, appelle la plus grande perplexité. D'accord ? On sait que le guide des égarés, Moré Nevuchim, la plus grande Nevucha, ce qui suscite la plus grande perplexité chez Maïmonide lui-même, c'est ce problème des sphères, parce que on a d'un côté ce modèle théorique qui veut qu'il n'y ait pas de vide et que donc les astres soient fixés sur des sphères qui sont non seulement ne s'intersectent pas, mais sont concentriques. D'accord ? C'est-à-dire que comme ça que vous pouvez avoir un puzzle où tout est imbriqué, comme des boules qui sont imbriquées les unes dans les autres. Okay. Et en plus, vous ne pouvez pas avoir des sphères qui s'intersectent, sinon ça ne marche pas, votre modèle. Or, ça, c'est le modèle aristotélicien théorique, avec des sphères concentriques. Et le modèle ptolémaïque qui correspond à l'observation, c'est que justement, les sphères sont décentrées les unes par rapport aux autres. Donc, on ne comprend pas physiquement comment ça peut fonctionner avec des boules qui sont pleines et qui s'emboîtent les unes dans les autres. Il dit, ça, c'est le gros... Pour Maïmonide, c'est le grand problème de toute cette question. Pourquoi c'est un problème pour Maïmonide ? Parce que Maïmonide, lui, se base sur la rationalité et l'harmonie et la cohérence de ce modèle théorique-là pour en déduire l'existence de Dieu comme grand horloger, pour le dire rapidement. Okay. Or, si le modèle théorique de l'horloge ne correspond pas au modèle réel des aiguilles de la montre, forcément, ça cause de gros problèmes. Mais en tout cas, il est dans ce modèle-là. Et donc, si c'est comme ça, si ces sphères, ce n'est pas des sphères fines et creuses à la surface interne desquelles seraient plantées comme des têtes d'aiguilles les astres, parce qu'il n'y a pas de vide, donc finalement ce sont des sphères qui sont entièrement encastrées les unes dans les autres, et donc la sphère du soleil qui est comme ça, le soleil n'est pas ici, parce qu'il n'y a pas d'espace ici, il est à l'intérieur, et donc c'est forcément des sphères qui sont cristallines. D'accord.
Mais quel problème ça fait poser de dire qu'il y a des sphères qui englobent la Terre ou non ? Pourquoi il faut préciser ça aux appels particulièrement en rapport ?
Parce que ça va venir au quatrième jour et que on va nous parler de comment est-ce que les astres vont être placés dans ce Rakia, d'accord, ou dans ce Shamayim qu'on appelle Rakia. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est que, d'après ce que je comprends, c'est que ce qui s'appelle Rakia, c'est, à proprement parler, la sphère la plus immédiate qui est visible depuis la Terre. et que, en réalité, les sphères supérieures, les sphères proprement astrales, c'est ça qui s'appelle Shamayim, mais ça, c'est au-delà du Rakia. Oui, sauf que l'espace, c'est pas justement, c'est pas un espace pour moi. C'est un espace qui est absolument plein de sphères qui sont cristallines.
Il y a besoin de dire que c'est plein parce qu'il prend comme hypothèse qu'il n'y a pas de vide.
Voilà.
Et ça, l'hypothèse qu'il n'y a pas de vide, il le tient d'où?
C'est un truc qui est complètement admis. C'est-à-dire, ça a une très longue histoire, parce que pour vous faire rapidement, en gros, il y a chez les anciens. Il n'y a que Démocrite qui tient qu'il y a deux modes majeurs d'existence, qui sont les atomes qui existent et le vide qui est un néant, mais à l'intérieur duquel les atomes existent. D'accord ? Donc c'est tout le modèle atomiste qui, en fait, nous est très familier aujourd'hui, puisque c'est ça qu'on apprend à l'école, mais avec des atomes qui se baladent librement dans le vide et qui se rencontrent et qui s'accrochent, machin. Ça, ce modèle-là, qui d'ailleurs, à l'époque de Maïmonide, est celui qui est retenu par le Kalam, c'est-à-dire la théologie rationnelle, mais pas aristotélicienne chez les musulmans, et qui est rejeté par Maïmonide. Donc, la physique aristotélicienne, elle rejette ça, parce que finalement, elle est tributaire de quelque chose qui remonte à Parménide, qui va dire que c'est quoi le vide ? Si le vide, c'est l'absence de tout, d'accord ? Alors le vide est un néant. Et donc, si entre une chose A et une chose B, c'est séparé par du néant, donc c'est séparé par rien, donc c'est côte à côte. Donc pour qu'il puisse y avoir un espace, c'est forcément un espace plein. D'accord ? Et c'est quelque chose avec lequel se débattra encore bien plus tard Descartes, par exemple. D'accord ? Descartes, dans le traité du monde, explique pour ces mêmes raisons-là qu'il ne peut pas y avoir de vide, et que, donc forcément, le mouvement, parce que le problème d'un monde plein, c'est comment est-ce qu'il peut y avoir du mouvement, d'accord ? Parce que c'est, l'exemple que je donne toujours, c'est les Hosharanot à Hoshana Rabba. Vous voyez comment ça se passe ? C'est-à-dire que quand tout le monde se met autour de la Teva et que tout le monde essaye de tourner, tout le monde est bloqué. Et donc là, c'est pareil. Si le monde est plein, comment tu vas avancer ? Il y a toujours quelque chose devant toi et devant lui, il y a quelque chose, devant lui, il y a quelque chose, etc. Et donc, Descartes...
Si un se met à pousser un autre, qui pousse un autre, qui pousse un autre, avec l'enchaînement, c'est que ça fait un vide. Ah oui, mais
il faut qu'il y ait un vide au bout, tu vois. Alors, le seul truc qui marche, c'est, comme on le voit avec les Hakafot à Hoshana Rabba, c'est qu'il faut que tout le monde bouge en même temps. D'accord ? Si tout le monde bouge en même temps, alors ça marche. Et Descartes, il explique que pourquoi il y a du mouvement, parce qu'en fait, il y a des micro-tourbillons partout, d'accord, de matière qui tournent comme ça, et que donc, on peut avancer parce qu'en réalité, il y a toujours du mouvement. D'accord ?
Oui. Quand il parle de vide des atomistes, il parle du vide tel qu'on le comprend actuellement.
Alors,
s'ils disent qu'il n'y a pas de vide, ceux qui disent, enfin, ouais. Maïmonide qui dit qu'il n'y a pas de vide, donc pour lui, là, il n'y a pas de vide, mais ça dépend comment ils se représentaient le vide, les autres.
En fait, c'est un problème qui n'est toujours pas résolu. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que peu après Descartes, on a démontré expérimentalement la possibilité du vide, d'accord, avec une pompe à vide où on avait une cloche et on savait qu'il y avait de l'air en dessous, et puis on a pu enlever l'air, et donc forcément, si on a enlevé l'air qu'il y avait sous la cloche, il n'y a plus rien sous la cloche, donc il y a du vide. Okay. Mais d'une part, ça veut dire juste qu'on a enlevé ce qu'on pouvait enlever, et d'autre part, on a un grand problème dans la physique, et c'était encore les questions qu'on se posait au début du XXe siècle, qui étaient avec la question de la lumière. Okay, on sait que dans l'espace, personne ne vous entendra crier, comme disait le film, parce que il n'y a pas d'air. Et donc, s'il n'y a pas d'air, il ne peut pas y avoir de son qui se propage, puisque le son, c'est une onde qui se propage dans un milieu... de l'air ou de l'eau, ou etc. Mais la lumière, à cette époque-là, au début du XXe siècle, on démontre qu'elle n'est pas seulement un corpuscule, c'est-à-dire un photon qui se déplace en ligne droite à travers le vide, mais que c'est aussi une onde. Donc, si c'est une onde, il faut bien qu'il y ait un milieu qui ondoie. Okay ? Donc, comment est-ce que la lumière peut se propager dans l'espace vide s'il n'y a pas de milieu qui ondoie ? Okay ? Et donc, l'hypothèse qu'on posait, qui était reprise, en fait, celle qui courait depuis Descartes, et en fait qui court depuis déjà avant, qui court depuis ici et depuis Aristote, c'est qu'il y a dans l'espace, au-delà de l'air, parce que les anciens savaient très bien qu'il n'y avait pas d'air au-delà de l'atmosphère céleste, d'accord ? Ils avaient bien compris. Mais que donc il y avait un cinquième élément qu'on appelle l'éther. Et c'était l'éther qui vibrait, et que c'était comme ça que la lumière se propageait. Donc aujourd'hui, la science physique, en fait, ne se pose plus la question. C'est un des trucs, c'est que la science physique, aujourd'hui, fonctionne très bien dans ce qu'elle sait faire, sans se poser ce genre de questions métaphysiques. La science physique a dit, ok, de toute façon, l'éther est par nature indétectable, donc si c'est pas détectable expérimentalement, c'est que ça n'existe pas, et on n'a pas à se poser les problèmes théoriques de l'existence d'une matière indétectable, etc. Et que bon, la lumière se propage sous forme d'onde dans un espace vide, ben, ça fonctionne comme ça. Je parle sous le contrôle de Arnaud qui... Okay, donc on a évacué ça. Mais en réalité, ce que nous dit ici Maïmonide, c'est que l'espace est plein d'éther et que cet éther est un éther qui forme des sphères à l'intérieur desquelles sont incrustés les astres.
Mais il n'emploie pas le mot éther.
Non, il n'emploie pas éther.
C'est ça.
Mais ici, ça a l'air d'être cette eau qui est au-dessus du rakia. Non, parce qu'en fait, il y a ce qu'il dit, j'ai l'impression, hein, c'est qu'il y a le rakia proprement dit, c'est la voûte céleste visible, okay, qui est peut-être analogue à ce que les Chachamim appellent velon, c'est-à-dire c'est un voile qui, on nous dit, c'est dans quoi ? C'est dans Maseret. Dans Shavuot et Pesachim, parce que ça intervient dans les histoires de calcul du jour et de la nuit, des phases, que en fait il sert à rien proprement parler, mais que il tourne et que donc il rentre le jour et il sort la nuit, quoi. Okay. Et que au-delà de ça, il y a d'autres sphères, qui sont les sphères célestes proprement dites, sur lesquelles il y a les astres, et qu'en fait, eux s'appellent Shamaïm, et qu'eux sont composés d'une sorte d'éther cristallin à l'intérieur desquels sont incrustés les astres, et que c'est eux qui tournent. Et donc c'est pour ça qu'il nous dit, il y a une ambiguïté d'homonymie entre Rakia et Shamaïm, parce qu'en réalité, la voûte céleste visible n'est pas, pour le dire dans les termes actuels, l'espace, même si on le disait en termes voilà, très, très basiques de ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire, quand vous voyez le ciel bleu en journée, vous ne voyez pas l'espace, d'accord ? Vous voyez, justement, le ciel bleu vous masque l'espace. Puisque, pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? C'est parce qu'il y a l'atmosphère terrestre qui diffracte la lumière du soleil, et donc la lumière, au lieu d'être blanche et aveuglante, elle devient bleue. Okay. Et donc vous croyez voir le ciel, et en fait vous voyez le milieu aérien dans lequel se diffracte la lumière du soleil. Vous ne voyez pas le ciel en tant que tel. Et donc le ciel, au sens de là où se trouvent les astres, il est au-delà de ce ciel apparent. Mais à l'inverse, le ciel apparent est donc une voûte céleste, une sphère, et les cieux sont aussi des sphères, donc on peut aussi les appeler Rakia, parce qu'effectivement, ils sont étendus comme une tente, sauf que au lieu d'être une voûte, c'est une sphère. D'accord ? Ibn Ezra va parler de ça.
Maintenant, on nous dit plutôt qu'il y a une matière, enfin, déjà, la plus grande partie de l'univers est faite d'une matière noire qu'on ne voit pas parce que la lumière ne se propage pas dedans. On sait qu'il y a des trous noirs qui absorbent justement, qui sont d'une gravité extrême et qui absorbent tout, y compris la lumière. Et la lumière donc, ne peut plus diffuser. Et actuellement, on pense qu'il y a quelque chose. Tout ce qu'on ne voit pas dans le ciel, la plus grande, la partie lumineuse, je dis ça parce que je suis en train de lire un bouquin d'un astrophysicien, et c'est à peu près 2% de l'univers qui serait éclairé, où la lumière pourrait justement se propager, et tout le reste c'est de la matière noire. Voilà. Et on le voit parce que justement, quand la lumière va à proximité, elle est déviée, puisqu'on sait que la gravité dévie donc, le trajet.
Alors, si je peux apporter une précision, trou noir et matière noire, c'est deux choses complètement différentes.
Oui,
d'accord. C'est-à-dire, un trou noir, c'est de la matière. Oui. D'accord. C'est de la matière qui est justement tellement dense qu'elle elle fait un trou dans l'espace tridimensionnel, et donc la lumière tombe dedans comme dans un entonnoir. Vous voyez ces représentations qu'on a. Mais c'est de la matière normale. D'accord. C'est des étoiles qui se sont effondrées sur elles-mêmes. Et par ailleurs, l'espace, on en a parlé à un cours précédent, l'espace est plein de lumière. C'est-à-dire, nous, on voit un certain nombre d'étoiles. En réalité, si on voyait mieux, on verrait que le ciel est entièrement recouvert d'étoiles, tellement il y a des millions et des milliards d'étoiles, d'accord ? Visibles. La matière noire, c'est encore autre chose. La matière noire, c'est une hypothèse qu'on fait, parce que pour que les équations marchent, on est obligé de supposer qu'il y a justement une énorme quantité de matière. Mais ce n'est pas qu'on ne la voit pas ou que la matière ne peut pas rentrer dedans, c'est qu'on ne l'a jamais détectée. D'accord ? Elle ne fait pas partie de ce qui est observable par les appareils.
Parce qu'il n'y a pas de lumière, mais on la voit de façon indirecte parce qu'elle dévie justement le trajet.
Non, justement, ça c'est pour les trous noirs. Les trous noirs, on sait.
Non, mais même la matière noire. Bon.
C'est pas le sujet. Bon, non. Je veux bien la référence juste, parce que moi, je n'ai jamais compris comme ça. Mais ce n'est pas ma spécialité, on est d'accord. Alors, on reprend le texte. Et puis, c'est Amar Barakia Shamayim, et pas Amar Arakia Shamayim. Hineni Baraki, Homer Mesuyam Haya Meshuta Vikaroumayim. Donc, ça veut bien dire que, au premier jour, il y avait une matière spécifique qui était Meshuta, qui était assez. Comment en arabe, c'est la troisième avant latin. Mushtaraka.
Mushtaraka, oui, c'est ça que ça veut dire. Mushtaraka, c'est ça.
C'est-à-dire associé, quoi, combiné.
Ouais,
commune. Il y avait une matière commune, quoi.
Ouais.
Voilà. Il y avait une matière commune qui s'appelait. Enfin, qu'on appelait les eaux. La kharkar nifdal bechalosh tsurot. Et après, donc, elle a. On lui a appliqué trois formes différentes. Venaase davar mimenu yamim. Il y en a une, c'est devenu l'eau des mers. Vedamar mimenu naase rakia. Une autre chose, c'est devenu le rakia. Vedavar mimenu naase me'al oto rakia. Et troisième chose, c'est devenu donc.
C'est bizarre de considérer. Une des formes qu'on applique à une des formes de Shamaïm, le nom d'une autre forme par métaphore. Enfin, quand c'est la même chose, enfin, c'est la même matière, mais on lui applique. Alors que c'est la même matière, mais c'est deux formes différentes, on dit, ah, mais par métaphore, il y a une forme qu'on va appeler par l'autre forme. Je veux bien qu'une métaphore, on comprend quand les choses n'ont rien à voir, hein, pas quand elles n'ont rien à voir a priori. Là, les choses sont assez proches quand même, c'est la même matière. Mais on m'a appelé, enfin je sais pas si je peux
dire,
mais
oui,
il y a
oui.
Quelque chose de paradoxal, enfin de, en tout cas du.
Bah, en fait,
on ouais. Convaincant de dire qu'on l'appelle Shamaïm Rakia, on l'appelle Shamaïm par métaphore, Alors que Shamaïm et Rakia, c'est, alors sauf si dit, ou c'est par métonymie, ça soit on dit que Shamaïm était le terme initial et Rakia, on l'a appelé Shamaïm.
C'est ça, bah.
Ouais, alors c'est par métonymie.
Par métonymie, oui. Par métonymie.
Non, je ne suis pas sur les mots, c'est juste pour comprendre parce que ça me gêne un peu.
Oui, dit. Oui, par métonymie, c'est un terme plus juste. Par métonymie.
D'accord. Et...
Qui est lié donc et à la proximité spatiale de notre point de vue, d'accord ? Et au fait qu'effectivement, les deux fonctionnent superficiellement de la même manière, en sachant que c'est des sphères ou des voûtes, les deux. Mais pour Maïmonide, ça a des fonctions essentiellement différentes. Donc,
Il n'y a pas de problème au fait que finalement, dans ces trois formes différentes, on a eu la panne de monde. En fait,
la troisième ?
Ouais.
Ouais, bah justement, tu vas voir. Tu vas voir.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, et ces eaux qui sont au-dessus des cieux, que là, il ne le nomme pas. Mais Kolze Merkhoutz Laaretz. Et donc, tout ça, c'est différent de la Terre en tant que telle. Ve'ene tafaz bedavar tfisa acheret les sodot niflaim. D'accord ? Et, dit-il, et en plus, le texte a d'autres implications qui relèvent de secrets merveilleux. À comprendre ce que ça veut dire. Alors c'est justement là que je fais la parenthèse. C'est ici que les commentateurs plus rationalistes que Maïmonide se lâchent, d'accord ? Dans l'édition standard de Maïmonide, vous avez le Ephodi, Kreska, Shem Tov, etc. Il y a 4-5 commentaires canoniques, entre guillemets, sur Maïmonide. Qui honnêtement ne sont pas forcément les trucs les plus intéressants du monde. Parfois ça donne des clés, mais moi perso ça ne m'a jamais transcendé. Et donc, alors eux ils sont vraiment dans l'école rationaliste, terre à terre de la lecture maïmonidienne. Et donc eux vont dire oui, en réalité là Maïmonide il fait allusion au fait que en fait il fait allusion au cycle de l'eau, ok, que en réalité les eaux d'en bas ce serait l'eau qu'on connaît et que les eaux d'en haut ce serait les vapeurs d'eau qui seraient les nuages qui seraient dans le ciel et ensuite le Rakia ce serait la zone d'air froid qu'il y a sous les nuages, et donc quand les eaux sont chargées, alors les eaux d'en haut descendent sur les eaux d'en bas, et Maïmonide n'a pas voulu être plus clair que ça, parce que ça aurait remis en cause la vision miraculeuse de la pluie, etc., et les promesses associées à la pluie dans la Torah et tout. Alors, je veux bien, mais bon, en réalité, je vois pas du tout où il a parlé de ça avant, et vous allez voir que dans la suite, ça colle encore moins. « Avaléenian chez Otto » Asher me'al la'rakia nikra mayim b'shem bilvad velo shehu min ha'mayim halelu. Mais donc il faut bien comprendre que les eaux qui sont au-dessus du rakia on les appelle eaux mais elles portent le nom d'eau, mais c'est pas de l'eau au sens où nous on connaît l'eau liquide sur terre, d'accord. Kvar amruhu gam chachamim zal Amrou b'ma'amaran, arba n'yachnesu la pardes. D'accord ? Parce que les sages ont dit, dans ce très célèbre épisode de Maseret Chagiga, des quatre qui sont rentrés dans le verger céleste, et vers la fin de l'épisode, Amar lahem Rabbi Akiva, que she'atem magim le avne shesh tahor, al tomru mayim mayim, shekach katuv dover shekarim, lo yechon le neged arinay. Quand Rabbi Akiva les avertit, dans cet épisode visionnaire, attention, quand vous arriverez là-haut, au lieu des pierres, des blocs de marbre pur, ne vous exclamez pas « de l'eau », car comme le dit l'Écriture, celui qui profère des mensonges ne pourra pas résider devant mes yeux. « Hitbonenna imata me'ancher hitbonenut, kama be'er be'ma'amarze » ואיך גלה את כל דבר אם התבוננת בו והבנת כל מה שיוכר בדברי החכמים. Donc, il dit maintenant que je t'ai donné ces clés-là, réfléchis bien, toi qui es quelqu'un qui sait réfléchir, à l'explication de cet épisode du Talmud, et comment est-ce qu'il dévoile toute la chose si tu réfléchis dedans et si tu comprends tous de manière cohérente les paroles des sages.
Explique-nous un petit peu mieux.
Alors, tu as vu comment il délaye sur quatre lignes pour te dire il faut réfléchir.
Okay. Explique-nous un petit peu le Hagiga.
Alors, pour l'instant, j'y comprends rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que je ne comprends pas comment les commentateurs classiques peuvent dire de là, oui, alors Rabbi Akiva, il parle que quand ils sont Nirnasou la Pardes, en fait, ils sont allés dans les nuages et qu'il les a avertis, attention, quand vous voyez les nuages, quand vous voyez le marbre pur, genre les nuages, ne vous exclamez pas de l'eau, parce que ce serait mentir.
C'est quoi ce passage dans Hagiga?
C'est le célèbre épisode où il y a Rabbi Ben Azaï et Ben Zoma et Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. D'accord. Qui... on l'avait vu une fois. C'est un épisode hyper connu. Donc il y a quatre... Voilà, il y a Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva qui... Nirnasou la Pardes, ils sont rentrés dans le verger. Okay. Et Rabbi Akiva les a avertis, attention, quand vous arriverez au lieu des pierres de marbre pur, ne vous exclamez pas de l'eau, parce que Dieu ne supporte pas le mensonge en sa proximité. Et on nous dit, Ben Azaï est mort, d'accord, c'est-à-dire qu'il a été emporté par cette vision divine et il ne pouvait pas...
Au moment où il y allait, il est mort.
Voilà, Ben Zoma, il a été frappé, on dit. D'accord, il est devenu fou.
Donc il est revenu, il était fou.
Voilà. Et on avait vu, tu écouteras, tu le retrouveras l'audio, parce que c'était très très long et on va en parler.
C'est le premier de l'année, c'est ça?
Non, c'était il y a trois séances. Pas les deux dernières.
C'était sur le deuxième passouk, sur Ruach Elohim al-Hafet al-Pena al-Maim. Et Elisha ben Abouya, il est devenu hérétique. D'accord? C'est-à-dire qu'il a. C'est-à-dire, fou, comme je l'ai expliqué rapidement, Ben Zoma, il était fou au sens où la vision de la réalité qu'il a eue à ce niveau-là faisait qu'il n'arrivait pas à la concilier avec son expérience du monde, ou en tout cas, il ne pouvait plus vivre, il ne pouvait plus fonctionner normalement dans le monde avec ce qu'il avait vu, d'accord ? Mais sans devenir... Sans avoir une vision fausse théologiquement, d'accord, mais juste que c'était. Il était ravi, quoi.
Parce qu'après, on est arrivé sur la colline, et puis il y a deux doigts entre le ciel et la terre.
Je vais y venir, attends.
C'est pour ça qu'on dit qu'il est fou.
L'anecdote, c'est qu'il n'avait pas reconnu, enfin, que vous avez raconté, il n'avait pas reconnu, enfin, un autre sage l'avait salué.
Et il était plongé dans sa méditation sur le fait qu'il n'y avait pas l'espace de trois doigts entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, justement. Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop déflorer, parce que c'est complètement notre sujet. Et ça va revenir plein de fois.
Et Rabbi
Akiva, juste... Elisha ben Abouya, lui, est devenu hérétique. C'est-à-dire qu'il a vu, il a interprété une certaine vision de la présence des anges auprès de Dieu comme l'indice qu'il y avait deux puissances célestes. Okay, donc un dualisme, une sorte de gnosticisme. Et Rabbi Akiva, lui, il est rentré en paix et il est sorti en paix. Okay. Donc, nous dire, comme les commentateurs de Maïmonide veulent nous faire croire, mais moi, je ne peux pas croire qu'ils soient sincères quand ils nous racontent ça, que oui, en fait, ils sont allés dans les nuages et que, attention, il ne fallait surtout pas dire que les nuages, c'est de l'eau, parce que sinon, Dieu va le rejeter de la présence, etc. On se moque de qui? Je veux dire, c'est clair qu'ils n'ont pas fait un voyage en Airbus, d'accord ? C'est pas ça le problème. Et que de toute façon, si on lit bien, si on prend au sérieux Maïmonide, comment penser que quand on dit forme aristotélicienne, d'accord, les nuages ne sont pas autre chose que de l'eau, d'accord ? Pas parce que ça a changé d'état de liquide à solide que c'est des des choses différentes, au sens où un chien aurait une forme différente d'un cheval. Parce que c'est ça, il faut bien distinguer en physique aristotélicienne classique. Il y a plusieurs formes, d'accord ? Il y a la matière première, absolument sans forme, qui est commune à tout. Et ensuite, il y a des formes essentielles auxquelles peuvent se rajouter des formes accidentelles. D'accord ? Et donc, là, il y a l'eau, elle a une forme essentielle qui fait que l'eau, c'est pas du silex, d'accord ? Et après, il y a des formes accidentelles, que l'eau, elle peut être liquide ou solide, etc. Mais Maïmonide ne parle pas des formes accidentelles de l'eau, ici. A priori. D'accord ? Sinon, franchement, c'est pour le grand secret, ouais, tu sais quoi, en fait, les nuages, c'est de l'eau et tout, mais à part si t'es un grand mystique comme Rabbi Akiva, faut pas le dire, tu vas devenir fou. On n'est pas des gamins, quoi.
Et on est sûr que ces pierres, c'est les nuages.
Non, justement, c'est ça que les commentateurs veulent dire. Mais pour moi, c'est clair que c'est pas ça.
Quoi ? Avenez, et à part les pierres, comment...
Chèche du marbre. Chèche
d'or,
ok.
Ah,
d'accord. Okay. Et donc... Non, chèche, chèche.
D'accord. On n'est pas sûr, c'est même pas la vie, c'est les nuages. Quoi.
Non, c'est eux qui veulent avoir une lecture complètement naturaliste de ce qu'est en train de raconter Maïmonide, et qui, à mon avis, force le texte de Maïmonide. Maïmonide, il est en train de nous parler d'un truc complètement différent.
Est-ce que vous avez vu ailleurs, dans la littérature hébraïque, des nuages qui peuvent être appelés des pierres, comme ça, on a vu ça ailleurs ?
Non.
Donc, il n'y a pas de raison comme ça.
Non, il n'y a pas de raison, ok ? Et donc, en réalité, il nous parle de complètement autre chose, c'est-à-dire que... Quelle heure il est ? Non, on s'en va. On va finir rapidement. C'est-à-dire que ici, il est clair pour moi que Maïmonide est en train de nous reconstruire justement toute une cosmologie qui va même au-delà des sphères des astres. Okay. À mon avis, je vous donne comme ça, et puis après vous me dites si vous pensez que ça peut coller avec ce qu'on a dit précédemment ou pas. C'est-à-dire, première étape, il a dit, attention, Rakia et Shamaïm, en réalité, c'est pas la même chose. Rakia, au sens propre, c'est la voûte du ciel visible, et Shamaïm, c'est les différentes sphères dans lesquelles sont fixés les astres. C'est ça, le ciel réel au sens physique. D'accord. Et que si on reste dans le monde physique, on a donc ici trois matières qui sont bien distinguées. Il y a, l'eau qu'on connaît, okay. Il y a finalement la voûte céleste, sur lesquelles on peut aussi compter les nuages pour le coup, d'accord ? Et qui est bleue comme l'eau et qui est constituée de vapeur d'eau ou de choses comme ça, et que c'est à travers ça que se diffracte la lumière. Hein, bref. Mais finalement, c'est pas si important que ça. Et au-delà, il y a un autre élément qui s'appelle l'éther, qui forme des sphères cristallines dans lesquelles sont fixés les astres. Okay. Ça, c'est première étape de son développement. Et ensuite, il passe, à mon avis, à un deuxième degré, où il vient nous dire, on voit que cette histoire des eaux, ou de ce qu'on appelle eau, mais qui n'est pas de l'eau, etc., revient dans le récit de Rabbi Akiva. Or, il est clair, à mon avis, et je pense pour Maïmonide aussi, que le Rabbi Akiva, Ibn Azza, Ibn Zoma et Elisha ben Abuya ne sont pas des astronautes, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils sont pas, ni ils sont allés dans les nuages, ni ils sont allés dans les sphères astrales, okay ? C'est pas le sujet. Okay. En réalité, il y a encore autre chose qui s'appelle ciel, okay ? Alors qu'on peut désigner comme au-delà du système astral, mais qui est le domaine dans une cosmologie classique à son époque, des sphères angéliques et du trône de gloire, etc., qu'on place conventionnellement au-delà de la dernière sphère astrale, mais qui en réalité est aussi au-delà de la notion de l'espace. Et c'est pour ça qu'on peut y accéder en étant Rabbi Akiva ou Benzoma, etc., sans bouger de la Terre. Et que c'est ça qu'il veut nous dire ici, c'est que de la même manière que... Non, ça te va ?
Non,
non,
non. Mais c'est qu'il y en avait d'autres qui pouvaient voyager comme ça dans les sphères célestes.
Non, mais c'est lié à ça, c'est lié à ça. Et donc, je pense que ce qu'il veut nous dire, c'est que de la même manière qu'il y a un rapport métonymique, effectivement, entre le Rakia et les sphères célestes, mais qu'en réalité, ils sont de nature différente. De la même manière, il y a un rapport de métonymie entre les sphères célestes et les sphères des mondes angéliques et du trône de gloire, etc. Mais que là aussi, c'est un rapport d'homonymie. D'accord ? Quand on parle du ciel pour parler du monde divin, c'est pas le ciel des sphères célestes. Je pense que c'est ça qu'il veut dire. D'accord ? Et que justement, le problème qui est... Pourquoi est-ce qu'il est obligé de masquer ça, c'est justement pas parce que il voudrait cacher un discours naturaliste, à mon avis, peut-être une tendance à avoir une lecture comme ça mystique entre guillemets de Maïmonide. À mon avis, il veut dire exactement l'inverse, c'est-à-dire que les gens ont tendance à se figurer le ciel divin dans le ciel géographiquement. Okay. Alors qu'en réalité, il est pas situé géographiquement. Il y a une très très belle image que Rabbi Moshe Cordovero utilise dans le Sefer HaElima, je crois que c'est vers la fin du deuxième chapitre.
Cordovero, c'est quoi, c'est 16e ?
Ouais, fin du 16e. Fin du 16e. Rabbi Moshe Cordovero, c'est facile, il meurt l'année où Rabbi Yitzhak Luria arrive à Safed. Donc, comme le Hareza, il arrive à Safed en 1570 et qu'il meurt lui-même en 1572, donc Rabbi Moshe Cordovero, il meurt en 1570. Donc, il est actif pendant le milieu du 16e, on va dire. Et lui, il dit, pour entreprendre un voyage spirituel vers Dieu, il y a deux moyens de transport, entre guillemets. Il y a un mode de visualisation extérieur qui est de se visualiser en montant de ciel en ciel visible et ensuite de ciel angélique en ciel angélique. D'accord ? Et il y a un mode de voyage intérieur qui est une plongée dans les profondeurs de l'âme, où c'est exactement symétrique en réalité. D'accord ? Et il dit, de la même manière que les sages de cette époque-là avaient des techniques de méditation qui leur permettaient de voyager vers l'extérieur, comme ça, de la même manière, nous, aujourd'hui, on a finalement la prière qui permet de rentrer en soi et de faire le même voyage. D'accord ? Et donc, il y a cette symétrie totale entre l'extérieur et l'intérieur.
Pourquoi il ne disait pas que la méditation permettait à l'intérieur ? Pourquoi il disait...
Parce qu'il dit... Il faudrait faire le texte, parce que c'est un texte qui est un peu compliqué. Mais il dit, voilà, on voit bien que finalement, cette méthode de voyage visionnaire suppose un voyage de l'âme vers des sphères de plus en plus lointaines, quoi. Et qu'aujourd'hui, on a un peu perdu ça, mais qu'on a l'autre technique, qui est la technique intérieure. D'accord ?
Vous voyez ce qu'on a perdu, hein ? Qu'est-ce
que vous voyez qu'on a perdu ? C'est les techniques employées par Rabbi Akiva et compagnie pour justement traverser les
sphères. Mais comme technique, comme technique
la prière.
Ah. D'accord.
Ou le bouquin que je t'ai passé.
Mais vous pouvez la transition, enfin comment il passe de la première explication, du premier temps de son raisonnement à l'histoire du Pardès. Comment il passe de l'un à l'autre, enfin,
il passe de l'un à l'autre parce qu'il dit, voilà, il dit que les eaux d'en haut, c'est pas parce qu'on les appelle eaux que c'est de l'eau au sens où nous on l'entend. D'accord. Et donc c'est ça qui lui... Mais effectivement, la transition est un peu artificielle en apparence. Il dit c'est la même chose que dans l'histoire avec Rabbi Akiva.
Il dit c'est la même chose. Enfin, voilà. C'est ça l'idée. C'est
voilà,
l'idée,
voilà. Il dit tu vois que cette histoire de... Attention, tout ce qui s'appelle eau n'est pas de l'eau. Tu vois que ça revient aussi dans l'histoire de Rabbi Akiva. Okay. Mais après ça, il te fait 5 lignes en te disant bon, maintenant, tu te débrouilles tout seul pour comprendre.
Le seul lien qu'il fait entre le Pardès, enfin, l'histoire du Pardès, et ça, c'est juste qu'il y a le mot haut.
Exactement.
Mais en réalité, il y a. Ça, non, c'est juste pour dire, regarde, haut, on peut l'employer aussi comme ça. Voilà. Mais on ne fait pas de lien entre. Effectivement, oui.
Voilà, sauf qu'après, il te dit, maintenant, tu fais le lien tout seul.
Ah oui, il dit.
Il dit, maintenant, toi qui sais réfléchir, ouais. Alors tu vas réfléchir là-dessus, et comment tout est dévoilé dedans si tu réfléchis et que tu comprends tout ce que.
Ouais, donc effectivement, ouais, non, d'accord, je comprends, ouais, d'accord. Ok. Ouais, donc quand même, il nous invite à faire un lien, d'accord.
Ouais. Mais ça il faut bien comprendre que Maïmonide est explicite sur le fait qu'il est rarement explicite. D'accord. C'est qu'il écrit en introduction, il dit sache que très souvent, je ne vais pas tout expliquer par A plus B. Que si tu veux comprendre, il faut aller voir à droite, à gauche et refaire toi-même le puzzle, etc.
Pourquoi il ne veut pas expliquer par A plus B ? Parce qu'il y a des ésotérismes ou parce qu'il n'a pas le temps
Non, parce que alors, il y a bon, vous savez qu'il y a Léo Strauss qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, dans la persécution ou l'art d'écrire. Ça, c'est une notion qu'en fait, on voit chez les auteurs classiques aussi, qu'effectivement, il y a un mode d'écriture ésotérique. Pourquoi il y a un mode d'écriture ésotérique ? Pour deux raisons essentielles, qui sont complémentaires. Il y en a une qui est extérieure, qui est de fait ce que les philosophes, ou les sages en général, vont expliquer, va à l'encontre de l'opinion commune, et que si on explicite les choses, les gens ne vont pas comprendre, et les gens ne vont pas être contents. D'une part parce qu'ils ne comprennent pas, et surtout parce que ça remet en cause leur certitude sur laquelle ils ont construit leur vie, leur pouvoir, etc. etc. D'accord. Pourquoi est-ce que l'allégorie de la caverne chez Platon est mise dans la République ? La République, c'est un traité de politique. L'allégorie de la caverne, on l'apprend en tant que théorie de la connaissance et de l'être, etc. Je vous rappelle l'allégorie de la caverne, que en fait, le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'ombre. On est naturellement enchaîné dans une caverne et on ne voit que des ombres projetées sur le mur. Et donc on croit que c'est ça la réalité. Mais parfois, il y a des gens qui arrivent à se libérer, qui donc sortent de la caverne et qui voient qu'en fait, la réalité, enfin, ce qu'ils prenaient pour la réalité, ne sont que des ombres projetées par des figures qui sont en dehors de la caverne, et que ce qui fait que ces figures-là projettent une ombre, c'est qu'il y a une lumière qui fait que ça projette l'ombre. Voilà. Et que donc, les formes réelles qui sont hors de la caverne, ce sont les idées. D'accord. En grec, forme et idée, c'est le même mot. D'accord. Ça, c'est une bizarrerie que je n'ai jamais compris, que dans Platon, on traduit par idée, et le même mot chez Aristote, on traduit par forme. Mais c'est le même mot. Et donc il y a des formes ou des idées qui sont en dehors de la caverne, et que la lumière, en fait, c'est l'idée suprême du bien qui donne sa réalité à toutes les autres idées, et que ce que les gens perçoivent n'est que l'ombre du réel. Mais, alors, d'habitude, quand on l'apprend, et ça c'est une des grandes arnaques de l'enseignement obligatoire de la philosophie, c'est que quand on vous apprend ça en terminale, on s'arrête là, okay, sur la théorie des idées. Okay, et on dit, ah, c'est formidable, machin. Alors, en général, on commence le cours par ça, dans le premier cours de terminale en philosophie. C'est une belle image et on croit qu'on a tout compris. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire, c'est que maintenant, le type qui s'est libéré, qui a vu le fondement du réel, eh ben, il a une responsabilité, qu'il a tous ses proches et ses congénères du genre humain qui sont enchaînés dans la caverne et qui vivent dans un mensonge. Donc lui, il a quelque part un devoir de redescendre dans la caverne pour expliquer aux gens. Mais les gens dans la caverne, la plupart n'auront pas envie d'entendre ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont construit leur vie, leur richesse, leur pouvoir sur ce mensonge de l'illusion. Okay ? Et donc, le philosophe, le sage, risque sa vie en redescendant dans la caverne. Et en même temps, il a une responsabilité de le faire. Donc c'est pour ça qu'il est obligé d'adopter un mode de discours ésotérique pour que les gens qui n'ont pas intérêt à comprendre ou qui tout simplement, de fait, pas forcément de droit, mais de fait, il y a toujours une masse de gens qui ne comprend pas ça. Donc que les gens qui ne comprendront pas, ben, ne comprennent pas et ne voient même pas d'intérêt. Okay, c'est ce qu'on voit très simplement quand on enseigne la philosophie au lycée. Okay, il y a 9 élèves sur 10 qui disent « Oh là là, j'ai rien compris ». Bon, t'as rien compris, tu vois, toute ta vie en n'ayant rien compris à la philosophie, bon, pas grave.
Et une question juste, cette personne hypothétique qui est sortie, qui a la responsabilité d'aller sortir les autres de cette caverne, cette personne-là, elle est sortie par elle-même ou elle est sortie de quelqu'un d'autre qui l'avait...
Alors c'est ça la question, c'est, est-ce qu'elle a été libérée par quelqu'un ou est-ce, ouais. Que, voilà, est-ce qu'il y a une chaîne Mais il me semble que dans l'allégorie de Platon, il se prononce pas là-dessus, il dit bon, ça peut arriver... que quelqu'un qui se
sort
de lui-même. Et parce qu'en réalité, on voit bien que ce discours de vérité ne va être compris que par une minorité. Et donc cette minorité, en quelque sorte, elle se libère aussi elle, toute seule. D'accord ? Parce que elle ne reçoit rien de plus que les autres qui restent enchaînés. Et donc ça, c'est la cause extérieure, que le discours du sage est politiquement dangereux pour lui-même parce qu'il menace un certain ordre établi. Et de l'autre côté, une nécessité interne à ce discours ésotérique, qui est que si on t'explique tout par A plus B, et que tu ne fais pas l'effort toi-même de comprendre, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Et que pour que ce qui est dit par quelqu'un comme Maïmonide fasse sens, ou ce qui est dit par les Midrashim, d'accord ? Ce que dit Maïmonide de sa propre œuvre, il le dit des Midrashim et des Agadot de Chazal, etc. C'est que c'est uniquement quand tu vas faire un effort d'herméneutique pour comprendre de quoi on parle, c'est quoi l'enjeu, etc., etc., que tu peux vraiment saisir le sens. C'est juste un truc qui est comme ça, tout expliqué. Tu vas le lire et puis ça va ressortir. Tu sais, les Avdil, c'est un peu comme les maths, tu vois. C'est-à-dire, tu prends un manuel de maths sup, okay, et tu lis tout le manuel de maths sup, tu refermes, tu as tout oublié. Les mathématiques, tu as besoin de travailler, tu as besoin de faire des exercices pour comprendre comment ça marche. Là, c'est pareil. Les textes de la tradition sont au moins autant des exercices de pensée qu'un discours tout près. Et donc Rambam, il dit ça sur l'Agadot Razal. C'est à ça qu'il renvoie aussi en disant « Imochiar bedivrei ve'havanta kol ma she'ochiar bedivrei chachamim » Si tu fais l'effort de comprendre la logique interne des paroles des Chachamim. Parce qu'il dit au début de Perek Chelek qu'il y a trois façons d'approcher les agadot des sages qui parfois ont l'air bizarres. Il dit, il y a des gens, premier groupe, c'est le groupe des fondamentalistes. C'est des gens, ils n'ont jamais rien compris à ce que c'était que le sens spirituel des choses, mais ils sont très très pieux et très très jaloux de leur piété. Et donc, si c'est écrit comme ça, si dans Perek Asfina, dans Bava Batra, il y a les Agadot de Rabbi Babachana avec tel sage qui s'est baigné dans l'œil du Léviathan, alors c'est que c'est vrai que c'est comme ça. Et que quiconque dit « Non mais attends, peut-être c'est une métaphore, une allégorie ou un symbole, etc. » Ah là là, ça veut dire que t'es un incroyant, t'es un mécréant, t'es un hérétique, tu remets en cause la parole des sages. Fondamentaliste, premier groupe. Il y a l'autre groupe, qui est le groupe des éclairés, et qui en fait est aussi fondamentaliste que le premier, qui lui va dire, non, alors voilà, dans le Talmud, il y a des histoires abracadabrantesques de sages qui se baignent dans l'œil du Léviathan, c'est complètement débile, donc les sages qui croient à ça sont complètement débiles. Mais moi, j'ai tout compris et je sais que tout le monde est débile, tout le monde est débile sauf moi. C'est un autre. Ils disent voilà, les sages étaient des gens crédules qui croyaient à n'importe quelle histoire de bonne femme. Et Rambam, il dit, il y a un troisième groupe. Il dit, je sais même pas si on peut parler de groupe tellement on est peu nombreux dans le groupe. C'est les gens qui essaye de concilier les deux hypothèses, qui est que, d'une part, les sages ne sont pas des idiots. Donc, s'ils racontent des choses, c'est que ça a un sens. Par ailleurs, nous non plus, on n'est pas des idiots. Donc, si on nous raconte des histoires comme ça, de sages qui se baignent dans l'œil du Léviathan, etc., et que ça a l'air idiot, c'est qu'on a raté quelque chose. Et qu'en réalité, les sages voulaient nous parler de secrets très profonds, mais que, comme ils savaient que les gens, la plupart des gens n'auraient pas les outils pour comprendre, et alors ils ont masqué leur discours sous des allégories, etc. Donc ils ont adopté un discours ésotérique pour que seuls les gens qui sont capables de comprendre fassent l'effort de comprendre et comprennent vraiment. C'est ça l'optique de Rambam.
J'ai juste deux questions. La première, c'est sur les deux manières, les deux ésotériques, par exemple, de extérieur et intérieur. Ça, c'était la théorie de Strauss, c'est ça sur...
Oui, ça a été repris par un de ses élèves dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelle. C'est un super bouquin qui est sorti il y a peut-être une dizaine d'années déjà en anglais, qui s'appelle Philosophy Between the Lines, c'est-à-dire lire la philosophie entre les lignes, où il développe justement tout ça. Et Léo Strauss, il explique historiquement que aujourd'hui personne ne croit en philosophie à l'ésotérisme, que tout le monde pense qu'il n'y a jamais eu d'ésotérisme en philosophie, alors qu'en réalité tous les auteurs classiques jusqu'aux Lumières non comprises ont dit explicitement qu'ils écrivaient de manière ésotérique. Platon le dit, etc., etc. Et c'est uniquement à partir des Lumières qu'il y a eu cette idée que le temps de la philosophie, que le temps politique de la philosophie était venu, et que donc, qu'est-ce que dit Kant dans Qu'est-ce que les Lumières ? Kant dit, les Lumières, c'est l'accès à l'âge adulte de l'humanité. Que maintenant, les gens ne sont plus des gamins, qu'ils sont capables de comprendre, et donc qu'il ne faut plus leur parler de manière voilée en ayant peur de la parole philosophique. Les gens sont grands, et que la parole, la vérité philosophique doit être démocratisée. Donc tout le monde, non seulement doit, mais peut y avoir accès. Et donc il faut écrire clairement. Et justement, ça opérera aussi des conséquences politiques avec l'avènement d'un nouveau régime par rapport à un ancien régime qui était fondé sur la domination et la guerre, etc. Okay, ça, c'est le projet des Lumières, dans lequel nous, ça nous paraît évident. Je veux dire, on est français, tous les bacheliers qui font une terminale générale au moins font de la philosophie. c'est comme ça. Mais il faut voir que jusqu'au milieu du 18e, c'était pas comme ça qu'on pensait. Okay, et de fait, vous voyez bien qu'on nous présente Kant comme un auteur difficile. Kant, c'est pas un auteur difficile en philosophie nucléaire. C'est un auteur technique. C'est-à-dire, quand vous avez lu Kant, c'est vrai que c'est pas, ça coule pas, mais quand vous avez compris, vous avez compris. Alors que des auteurs comme Platon, c'est l'inverse. C'est-à-dire, vous lisez, et vous avez l'impression que c'est très facile, et en fait, quand vous réfléchissez, vous vous rendez compte que soit vous avez compris des banalités, donc en fait, vous n'avez rien compris. Et donc, ça demande un travail.
Et l'autre question, juste, c'était, vous avez parlé du coup de comment dire, je ne sais pas si c'est quand vous avez parlé de la philosophie, le théorie, du fait que ça ne sert à rien de dire aux gens explicitement, parce que sinon, cette vérité-là, elle ne sera pas acquise par eux-mêmes, et que finalement, cette vérité, elle n'est que pleine que quand les gens ont acquis ça eux-mêmes. Moi, j'avais une question là-dessus. C'est que faire de quelqu'un qui a entendu extérieurement cette vérité-là? Comment peut-il savoir quand est-ce qu'il l'a acquis lui-même?
Ah, bah, justement, c'est là qu'intervient le travail de Chavruta. D'accord, ouais. C'est-à-dire d'études à deux. C'est-à-dire, c'est quelque chose où moi j'ai remarqué ça aussi dans ma façon d'étudier. C'est-à-dire, quand tu étudies tout seul, c'est très facile de croire que tu as compris. Ouais. Okay, tu lis et tu fais ah, ok, c'est bon, ah, j'ai compris. Tu passes très vite. Okay. Quand tu dois préparer un cours, alors là, et que tu vois déjà mentalement, tu réfléchis à au fait que tu vas avoir des élèves en face de toi qui, eux, vont moins bien comprendre que toi, parce que c'est toi le prof et les élèves. Et donc, il faut que tu répondes aux questions. Donc, tu es obligé de te poser les questions qu'on va te poser. Et là, tu te rends compte que ben non, il y a plein de questions qu'il faut se poser et que tu ne serais pas posé si tu n'avais pas eu ce truc-là. Et ensuite, quand tu donnes un cours, il y a encore plein de choses qui ressortent auxquelles tu n'avais pas du tout pensé. Et quand tu fais une étude à deux, en ce qu'on appelle en Chavruta, c'est là que c'est essentiel, parce que justement, l'étude en binôme, c'est l'épreuve du réel. C'est-à-dire que quand tu étudies tout seul, tu crois facilement avoir compris. Et quand tu as quelqu'un en face qui te dit « Non, j'ai pas compris. Explique-moi, j'ai pas compris. » Et donc tu lui expliques, et souvent au début, pour expliquer, tu répètes. Et tu répètes ce que tu avais dit, et si c'est pas clair pour l'autre, ça veut dire qu'en réalité, tu te trompes en croyant que c'est pas clair pour toi. D'accord ? Et donc c'est ça le travail qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est essentiel d'étudier ces textes à plusieurs, etc. Okay. Bon, on va finir quand même le passage du Rambam, et après on continuera la semaine prochaine sur Ibn Ezra et Ramban, qui vont nous emmener encore... Enfin, ça va être, vous allez voir toujours le même sujet, mais encore plus approfondi. Oui, ma chère, j'étais derrière vous, j'étais oil à la. Attends, ma chère, mais Hamato. L'homme albéum acheni kitov. Donc, autre point, également relevé par Rashi, en fait, relevé par les Chachamim, dont sont tributaires tant Rashi que Maïmonide. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas kitov dans le deuxième jour? Vekvar yadata mamare Chachamim zal, asher amrum beze. Al derech adrash, v'tov shebahem amra lefi shelo shlema melachet shamayim. Donc ils disent, bon, on sait que c'est traité chez les sages, d'une manière midrashique, et notamment la meilleure explication, qui est celle rapportée par Rashi. Rashi et Rambam ne se connaissent pas, a priori. Okay. Rashi n'a pas lu Rambam, et Rambam n'a pas lu Rashi. Parce qu'ils sont quelques années près, à peu près contemporains, et qu'ils sont dans des aires culturelles qui, à l'époque, sont complètement séparées. Puisque Rashi est en France du Nord, et Maïmonide, quand il écrit, il est essentiellement en Égypte. Alors qu'on sait que Ibn Ezra, lui, aura lu Rashi, qui est 25 ans avant lui, je crois, quelque chose comme ça. Puisqu'il cite Rashi et critique Rashi. Et Ibn Ezra aura lu Rashbam, le petit-fils de Rashi, puisqu'ils sont exactement contemporains. Et la génération des petits-fils de Rashi, les Tosafistes, auront eux lu Maïmonide, puisqu'il est cité dans un Tosfot. Okay, pour que vous ayez une idée de la diffusion des histoires. Okay, donc il cite la même chose. Donc la même raison que Rashi, c'est parce que le travail des eaux n'avait pas été fini au deuxième jour. Véorot Tamar d'Adavar les Darati Pachout Meod. Il dit, bon, ça c'est l'explication de Drash, ok. Mais il y a une autre raison encore plus simple. Véou qui colma chez Hiskir d'Avar Minyane Ametsius chez It Hachou, Hanim Tsarim le Orlam, Hatamidi im Ayet Sivim, Amar Bechar Kitov. Parce que le texte dit Kitov, car c'était bon, sur tout ce qui relève des choses créées et qui sont présentes dans le monde, d'accord, et qui sont perpétuelles, d'accord, qui font partie de la structure du monde connu, on va dire. Alors, c'est ça qu'on dit Kitov. Et alors qui a zé va d'avoir la chair Allah va chercher Niklam Mayim à d'avoir bon et l'âme qui fiche à Taroi. Or donc le rakia et ce qui est en fait essentiel, les eaux qui sont par-dessus, ça fait pas partie de notre expérience mondaine. Les fiches im tefarechehu kifshuto beklishut ayun yé davar bilti matsuikai. Parce que si tu l'expliques de manière littérale, sans avoir rien compris à ce dont on parle véritablement, alors en fait, on parle de quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas effectivement d'eau là-haut. Les fichiers en sham gouf aher zulat ayesodot benenu leven ashamayim atahatonim. Parce que, donc, entre ce qu'il appelle les cieux inférieurs, c'est-à-dire la première sphère céleste, et nous, il y a, donc, toujours dans ce modèle cosmologique classique, donc il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, le feu et les sphères célestes. Et donc, il y a, en réalité, dit-il, il n'y a rien qui s'appelle vraiment Rakia dans ce modèle-là. Okay. Donc il n'y a pas, d'eau, au sens de l'eau de mer, qui serait au-dessus du feu, ou, etc. Okay. Il n'y a pas d'eau là-haut. D'accord. Les kol sheken imidme medame ki arakia ze uma she'alav hu me'al ha'shamayim tiyemeniut adavar yoter hamura rachoka lehasaga. Et donc si tu prends une autre option, que tu me dis non mais justement le rakia c'est pas du tout la voûte céleste visible etc. Au contraire, et c'est ça qui est intéressant, on parle d'une réalité qui est au-delà des sphères célestes. Okay. Donc on voit ici qu'il a encore ce jeu de va-et-vient entre un modèle physique et un modèle métaphysique, d'accord. Il n'avait pas explicité, mais là il dit oui, on pourrait aussi interpréter que le rakia dont parle le texte n'est pas le rakia qu'il y a en dessous des sphères célestes, mais d'un autre rakia qu'il y aurait au-delà des sphères célestes, et donc qui serait un écran entre le monde visible et le monde invisible. Et ça, il ne le tire pas de n'importe quoi, il le tire finalement de Midrashim ésotérique, de l'école de Rabbi Akiva, etc., qui parle dans ces termes-là, d'accord, cette image-là, où les différents degrés de réalité sont séparés par des voiles, par des écrans, etc., c'est quelque chose qui est très classique, et c'est à ça qu'il fait référence. Okay. Donc il dit, alors, si ce Rakia, c'est ça, c'est un écran qui sépare les sphères célestes du monde des anges, alors c'est clair que ça ne fait pas du tout partie de notre expérience commune, donc on ne peut pas dire kitov selon cette logique-là. Et si on l'explique suivant sa réalité, ce que ça veut dire, là il ne nous dit pas exactement ce que c'est, alors c'est encore plus caché. Parce que c'est obligé que si on parle de ça, donc ça a l'air d'être finalement une réalité métaphysique, ça fait partie des secrets qui sont cachés pour que la majorité des gens n'en aient pas connaissance. Okay, donc là, il affirme explicitement ce côté ésotérique de ce deuxième jour. Mais d'avoir chez Ouken, Echef Charles Omar Bokitov. Et donc quelque chose dont l'existence doit être dissimulée au plus grand nombre, comment on peut dire Kitov ? Ken Inyantov et Lacheto Alato, Geluya, Venikeret, Bemitsiut, Animsa, Azev et Kiyumule Olam. Parce qu'on ne peut qualifier de bien que quelque chose qui a des effets apparents et perceptibles dans notre réalité mondaine. Avala davar she'inyano ne'elam ve'ashapshuto bilti matzui kar. Mais si on parle de quelque chose qui finalement n'a que un sens ésotérique et que son sens littéral ne renvoie à aucune réalité, en quoi est-ce que ça peut avoir un intérêt pour les gens, d'accord ? En quoi est-ce que les gens peuvent en avoir un bénéfice, d'accord ? Pour qu'on puisse dire que c'est bien, d'accord ?
Ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que c'est pour les gens. Quand
je dis voilà, bien, voilà. Voilà. Kitov, ça veut dire que c'est un bienfait, d'accord ?
Pour les gens.
Pour les gens, en tout cas pour autrui. Mais là, il a l'air de dire, finalement, ce qu'il a l'air de dire, c'est que la réalité du Rakia, c'est quelque chose qui relève du monde des anges, des choses qui sont accessibles que par un voyage visionnaire, etc. Et que donc ça n'a rien à voir avec la vie politique. Et que ça relève des secrets intradivins, ça n'a rien à voir avec avec la police.
Politique ou sensible ? Parce qu'il a l'air, enfin, je sais pas, comme il dit, c'est pas perceptible.
Oui, mais en fait, ça n'a aucun aspect utilitaire. Bon. Politique au sens large de ce qui concerne la vie humaine, quoi. Okay. ומחרני להוסיף לך ביור, והוא כי זה, ואף על פי שהוא חלק גדול מאוד מן המציאות, אבל אין לו מטרה תכליתית להמשכת המציאות, כדי שימרו בו כי טוב, אלא לצורך שהיה החיי שתיראי הארץ, ואמן זה, אוקיי, vraiment, il se lâche dans les aveux, c'est-à-dire, je suis obligé de t'expliquer encore un petit peu, qui est que toute cette histoire du Rakia et des eaux qui sont au-dessus du Rakia, c'est une grande partie du réel, en fait. Là, on rejoint métaphoriquement cette idée de matière noire, d'accord ? En réalité, tout ce qui relève du suprasensible, de ce qui est séparé du visible par l'écran du Rakia, c'est ça la plus grande partie du réel. D'accord ? Mais c'est tellement loin de notre réalité sensible que et voilà, ça n'a pas de finalité. C'est très profond. ça n'a pas d'effet, de finalité dans le fonctionnement du monde sensible. Et donc, on ne peut pas dire que c'est bon. Mais du fait que c'est une étape nécessaire pour que la Terre apparaisse, alors on était obligé d'en parler. Et je finis. Et il dit, il comprend ça. Autrement dit, ce qu'il est en train de nous dire, et ça c'est extrêmement profond, il nous dit, voilà, sache qu'en réalité, ce qu'on parle dans ce deuxième jour-là, ça n'a rien à voir avec notre expérience. Et il y a des choses fondamentales. La plus grande partie du réel a été formée en réalité à ce moment-là. C'est tout ce qui relève de l'infinie création de Dieu au-delà de ce qui concerne la réalité humaine. Okay. Mais on ne peut pas dire que c'est bon pour l'homme parce que ça n'a pas été fait pour l'homme et ça n'a aucune utilité pour l'homme. D'accord. Mais pour autant, c'était une étape nécessaire pour que la Terre apparaisse, ça va être au troisième jour. Autrement dit, que la Terre en tant que lieu de l'expérience humaine, d'accord, suppose comme étape préalable la création de tous ces mondes supérieurs. Mais donc, ce qu'il est en train de dire, et ce qui est très fort, et on comprend là pourquoi il faut le cacher, ça n'a rien à voir avec ce que les commentateurs m'ont dit, que non, bah alors il ne faut pas leur dire aux gens que la pluie, ce n'est pas miraculeux, que c'est le cycle de l'eau, sinon ils vont être incroyants. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il est en train de dire, sache qu'en réalité, Dieu a créé des myriades de niveaux d'êtres dont la grande majorité n'ont aucun rapport avec la vie humaine, qui sont indifférents à la vie humaine, et que la vie humaine finalement, toute l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qui est tout à fait mineur statistiquement dans le projet divin. Il y a énormément de choses qui sont créées dans le monde, des milliards d'anges, etc., où on pourrait parler aussi, même aujourd'hui en termes cosmiques simples, il y a des milliards d'étoiles et de systèmes solaires et de galaxies qui sont complètement indifférents à l'existence humaine, qui n'ont aucune utilité pour l'existence humaine. Et si on prend en termes kabbalistiques, alors non seulement tout ça, mais tu multiplies par des millions et des millions les niveaux d'êtres qui n'ont aucun rapport avec l'expérience humaine. Okay. Mais pour autant, pour qu'il puisse aussi y avoir la Terre qui est l'expérience humaine, donc ça suppose aussi tout ça, ça fait partie de ça, d'accord ? Mais c'est ça c'est ça le grand secret en fait qui veut pas cracher, c'est de se dire oui, ok, c'est vrai que Dieu s'intéresse sans doute à l'expérience humaine, mais l'immense majorité du monde créé ne l'a pas été dans un but utilitaire et n'a pas pour centre et pour finalité l'humain.
Là, c'est pas du tout anthropocentrique comme disons des choses, mais quand il dit réalité humaine, il parle de réalité terrestre, c'est-à-dire ce qui se passe sur la Terre, ou est-ce que quand on parle du monde, etc., on parle de l'univers ? C'est ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a des. Si je lis Ramban, si on me dit il y a des myriades de choses, de réalités qui ne concernent pas l'homme, mais qui peuvent avoir lieu sur la planète Terre. Ou est-ce qu'on parle vraiment de l'homme avec sa planète Terre et c'est ça qu'on dit réalité humaine ?
Ouais, je sais pas. Ça, on verra justement dans le troisième jour, etc., où on verra la création d'une réalité terrestre et de
ça. C'est l'homme, mais vraiment juste l'homme, quoi. Réalité humaine, c'est vraiment l'homme, mais ça peut être. Il y a des réalités non humaines sur la planète Terre.
Ouais, bon, pour l'instant, c'est pas ce qu'il dit. Pour l'instant, il a l'air de dire que ce dont on va parler dans les jours suivants, c'est-à-dire les plantes, les animaux. Et même les astres, etc., ça a une utilité humaine, d'accord ? C'est-à-dire, en tout cas, oui, sans rentrer trop dans la logique de la chose, il est clair que quand on va nous parler de la création des plantes, oui, les humains ont une utilité des plantes. Les hommes utilisent les animaux, les hommes utilisent les astres, d'accord ? Ça sert à quelque chose, le soleil et la lune, d'accord ? C'est parce que c'est étant, etc. Alors ça, c'est ce qu'il va expliquer après, je pense. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas clair.
C'est clair. Ouais. Mais là il n'en a plus rien à faire du premier acquis. Enfin, je veux dire, pourquoi il nous a exposé le premier, si en réalité, parce que là, au début, il nous expose une cosmogonie, ouais. Mais là, il nous dit, enfin, si le rakia, c'est pas ce qu'il disait, donc la cosmogonie qu'il nous a exposée en réalité, c'est rien du tout pour lui.
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit que ce paragraphe avec Rabbi Akiva qui avait l'air complètement disjoint,
oui,
il fait le lien entre deux niveaux d'explication. C'est-à-dire, il y a eu un premier niveau d'explication où il a expliqué Rakia, c'est une sorte de. C'est un voile qui est en dessous des sphères célestes. Et maintenant, il nous dit non, en réalité, le vrai Rakia, c'est quelque chose qui est au-delà des sphères célestes.
Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de voile en dessous des sphères célestes ?
Parce que, c'est ce qu'il dit.
Oui, non, mais donc finalement, toute cette cosmogonie, sauf si on dit non, mais t'oublies le rakia comme ça, mais tout le reste, ça tient. Mais sinon, on se dit, bah oui, mais s'il y avait le rakia qui était là pour. Il devait penser qu'il y avait une justification, il devait y avoir nécessairement une justification. Donc, toute la cosmogonie qu'il a expliquée dans un sens, dans un premier temps, il y croit pas, donc en réalité.
C'est-à-dire, il dit en réalité, je pense, et c'est ce qu'on va voir la même chose chez Ibn Ezra, ce qui est très intéressant, c'est que la première explication était en réalité phénoménologique. C'est-à-dire que à l'homme, la voûte céleste apparaît comme un rakia. D'accord ? Et que donc il y avait cette première description d'un rakia qui serait une voûte céleste ou l'atmosphère, par exemple, et qui serait avant les sphères astrales. Mais il dit en réalité, il n'y a pas justement de sphère. Et là, il retombe sur un modèle ptolémaïque plus strict. Il n'y a pas de sphère entre l'air et le feu et Céréza. C'est que, en réalité, le vrai sens de l'Akiya qu'on parle ici, c'est un écran qui est au-delà des sphères célestes. C'est quoi la référence qu'il a en tête ? Dans Yeheskel, dans la vision du char de Yeheskel, on parle d'un rakia qui est sur la tête des Hayot. Vous voyez, les hayot, c'est les animaux, littéralement, qui tirent le char divin. Et, voilà, quatre, avec chacun quatre têtes, qui a chacun quatre têtes, etc. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Mais on nous dit qu'au-dessus de la tête des hayot, il y a un rakia. En fait, c'est ça que lui, il a à l'esprit, pour nous dire que le vrai rakia et les vrais shamayim, c'est quelque chose qui est encore au-delà des sphères célestes.
Et donc, le modèle qui nous a exposé dans un premier temps tient, il faut juste oublier qu'il y a une sphère. Voilà. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas de sphère, mais ça tient. Ce que j'ai dit physiquement, en tout cas, ça tient.
Voilà, il y a des sphères célestes, mais il n'y a pas un rakia en tant que tel. Ouais.
D'accord, mais alors, oui. Pourquoi
il... Et parce que, encore une fois, il le dit explicitement, il n'est pas là pour donner une explication évidente et il demande un travail, quoi. On s'arrête là. Alors la prochaine fois, on continue sur ce passage-là, et vous verrez, c'est encore plus fou. C'est encore...
Ouais, le problème, c'est que si Valkia, s'il a expliqué dans un premier temps le texte, en disant, voilà, le texte, il rencontre de cette cosmologie-là, avec un Rakia qui fait la séparation, ça. Si il me dit, après, il me dit, non, mais le Rakia, c'est autre chose.
Non, parce qu'en fait, il dit, je peux... S'il y avait un Rakia... En dessous des sphères célestes, alors les sphères célestes, ça s'appelle Remayim. Mais il dit en réalité, dans la deuxième temps, il dit en réalité, il n'y a aucune réalité physique qui correspond à ce qu'on appellerait Rakia à ce niveau-là. Il n'y a que les éléments.
Oui, mais alors, le texte, il parle de Rakia.
Oui, voilà. mais en fait, le vrai Rakia, il est au-delà des sphères célestes.
Ah oui, donc là, il ne tire absolument pas du texte de rien, il le tire de complètement autre chose, le vrai Rakia, il le tire de complètement autre chose.
Il dit s'il y a
le
un vrai...
Le texte, c'est une métaphore, le Rakia dans le texte, c'est une métaphore du Rakia qui est ailleurs.
Que, en fait, le pshat du texte, qui demandait déjà à être construit dans la première partie de son texte, est un pseudo-pshat pour masquer une réalité ésotérique plus profonde. D'accord ? Et alors, vous regarderez le Ramban, il se lâche encore plus. Il est en panique totale, où il dit, bon, il y a des trucs hyper ésotériques, kabbalistiques là-dedans, et surtout, je ne peux pas en parler, même les gens qui savent ne doivent pas en parler, alors moi, j'en parle encore moins. Et tout. Et donc, c'est un peu la tannée, parce que les commentateurs de Ramban disent tous, bon, bah, s'il n'a pas voulu en parler, moi, je n'en parle pas non plus.